Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog lecarninitial.com, le podcast qui vous accompagne pendant vos sessions de dessin. Je suis Sandre, votre hôte, et j'enseigne le dessin en ligne à quiconque est prêt à oublier tout ce qu'il sait sur cet art, et ce, même si vous pensez n'avoir aucun talent. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner pour recevoir des astuces et conseils de professionnels, comprendre leur psychologie et progresser en dessin autrement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas très rigolo, je dois vous s'avertir. Si vous n'avez pas lu le titre du podcast, ça va être sur le futur des intelligences artificielles sur les métiers de l'illustration. Je dis qu'il n'est pas très rigolo et je préfère mettre un warning, un avertissement, parce que ça peut potentiellement vous démotiver, en fait, tout simplement. Donc si vous êtes dans une phase de votre vie ou voilà, de votre apprentissage du dessin où vous n'êtes pas très très motivé, je vous conseille de ne pas écouter ce podcast, parce que je vais avoir une vision qui est potentiellement assez pessimiste, je me connais, et que j'ai envie voilà, de donner une vision assez brute. J'avais fait une vidéo sur le sujet, sur les intelligences artificielles, très dur à dire ce mot, les intelligences artificielles. Vous voyez, je suis pas parfaite, je suis pas un robot, moi. Et donc j'avais vraiment essayé de traiter cette vidéo la manière la plus neutre possible, en essayant de pas vraiment mettre d'émotion, vraiment être dans de l'analyse justement pure et dure, parce que c'est très facile d'être dans des émotions quand on va être remplacé par un robot, en fait. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est normal, on est des humains justement. Et donc j'avais dit dans les commentaires que j'allais faire un podcast sur le sujet qui serait plus ma réaction un peu à chaud, avec voilà, un peu plus émotionnel en fait. Je vais un peu plus laisser parler mes émotions et plus qu'est-ce que j'en pense moi en tant que Sandre en fait, juste. Là où c'est pas du tout ce que j'avais essayé de faire lors de la vidéo, justement parce qu'on a, vite fait de partir justement sur ce côté un peu émotionnel. Donc c'était important pour moi de ne pas l'être. Donc là, on va un peu se lâcher. On va essayer quand même de pas être trop dans du pessimisme non plus. Mais ce podcast va être très brut. Probablement pas monté, du coup voilà, je vais peut-être dire des bêtises, je vais peut-être manger mes mots. J'ai envie justement de faire un contraste avec le fait qu'on parle d'une intelligence artificielle, d'un robot qui est censé être parfait, contrôlé, alors que nous en tant qu'humains, on a nos failles en fait, hein, on fait des erreurs et c'est ça qui est beau aussi. Donc j'espère que vous allez apprécier le voyage avec moi. Donc j'ai pris des notes au fil des semaines sur le sujet. Et ça va être un peu mis un peu n'importe comment. Donc vous m'excuserez. Donc déjà, j'avais noté photobashing. J'avais parlé du photobashing. Alors c'est vrai que photobashing, donc qu'est-ce que c'est? Photobashing, c'est quand on fait des concept art, notamment dans le jeu vidéo, dans les séries, dans le film, etc. On essaie d'avoir un rendu le plus photoréaliste possible. Et dans cette idée de faire ça, on va intégrer de la 3D, mais surtout on va intégrer de la photo. Ça va nous donner un rendu très réaliste. Et donc le photobashing, si on imagine d'un point de vue plus illustration, on va se dire mais c'est un peu triché, on intègre de la photo, c'est plus du dessin. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça parce que on a tendance à oublier en fait que ça existe, que c'est fait, que ça nous permet de gagner du temps. Et c'est pas pour autant qu'on se dit « Ah ben c'est de la photo, c'est de la photo ». Oui, c'est photoréaliste parce que c'est ce qu'on veut. À chaque fois je parle de photobashing, je sais pas pourquoi je pense au photobashing de The Last of Us, parce que je pense que je l'ai eu en fond d'écran pendant longtemps. Mais ça représentait du coup la chambre d'Ellie et on voit que les affiches, par exemple, sur le mur sont des affiches, de vraies affiches qui sont copiées-collées. De mémoire, hein, je vous dis ça. Mais... Et donc, moi, ça me pose pas de problème d'utiliser de la photo. On est quand même dans une industrie où en fait le temps c'est le profit, on a besoin vraiment de vraiment faire les choses rapidement et donc on intègre de la photo. Donc je me dis les intelligences artificielles ça va être un peu ça finalement, ça va être un peu arriver à communiquer avec la machine afin de lui faire faire ce qu'on a envie de faire le plus rapidement possible. Donc dans l'idée, je suis pas vraiment contre, mais après vous savez pourquoi je suis déjà contre. D'ailleurs oui, pardon, je vous ai pas averti, mais allez regarder la vidéo d'abord, si vous ne l'avez pas vue, sur ma chaîne YouTube, le carnet digital de Sandre. Parce que du coup là je vais un peu c'est possible que je défende aussi les intelligences artificielles, et je vais pas répéter ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais voilà. Dans un des points positifs, j'ai envie de dire, des intelligences artificielles, c'est que ça fait gagner du temps, tout simplement. Et je vois ça plus en complément d'un illustrateur en fait. Donc utiliser les intelligences. Je crois que je vais dire IA à la place, non, hein, ça va être plus rapide. Les IA plutôt que d'aller chercher une photo, voilà. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai cherché pendant longtemps, c'est avoir un vrai moteur de recherche du genre. Bah voilà, je sais pas, vous avez besoin de trouver une photo d'un enfant qui joue avec un oiseau, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais vous allez taper enfant de profil qui joue avec une perdrix. Je sais même pas si c'est un oiseau ou une perdrix. Mais vous allez taper un truc très précis et bah du coup, l'intelligence artificielle ne va pas créer l'image, mais elle va juste trouver une photo qui correspond le plus à votre description. Ça, c'est un truc qui, moi, je trouve est génial. Et ça utilise, voilà, c'est un système d'IA pareil. Qu'est-ce que je vous ai dit sinon? Enfin, qu'est-ce que je vous ai écrit? Oui, j'ai marqué, les IA devraient soutenir l'humain afin de se concentrer sur des tâches artistiques. Et pourtant, en fait, on a fait l'inverse. J'avais vu passer un tweet. Alors, attendez, je vais vous le retrouver. Bon, impossible de remettre la main dessus évidemment, mais grosso modo le tweet disait que c'est quand même rigolo qu'on pousse les intelligences artificielles à créer de la musique, des images, des vidéos, pendant que nous les humains on se casse la tête à faire des activités qui sont redondantes et pas agréables à faire. Bon, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses qui sont automatisées par les ordinateurs, mais c'est vrai que pourquoi à tout prix vouloir laisser faire les intelligences artificielles créer en fait, alors que bon, par essence, on a plus envie de laisser un humain le faire. Oui, j'avais une autre citation. Alors, les citations sont toujours un peu cassées, broken. Parce que souvent, je mélange anglais et français, donc ça ressemble à rien du tout. Donc, j'ai noté que les intelligences artificielles ne remplaceront pas les hommes. Alors, je pense que je voulais dire les intelligences ne remplaceront pas les illustrateurs, les dessinateurs, les artistes, mais remplaceront les gens qui ont tendance à créer les prompts. En fait, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes un artiste qui est relativement connu et qu'on peut reconnaître votre style et on a utilisé une intelligence pour créer votre style, il y a des grandes chances que vous puissiez, je l'espère, porter plainte. Parce qu'en clair, on ne vous a pas engagé, vous, mais on a utilisé vos œuvres pour nourrir une IA qui va créer à votre place. Donc sans vous, en fait, sans vous, l'artiste, l'IA n'aurait pas pu créer ces images. Donc en soi, en vrai, l'artiste en tant que tel n'est pas vraiment remplaçable. Je l'espère, dans un monde où justement, les artistes seraient protégés. Et puis, un artiste, c'est pas juste du dessin, c'est pas juste un style, c'est aussi une idée derrière. Et c'est plus ça, en fait, qui a de la valeur, à mon sens. Ou en tout cas, qui va avoir de la valeur dans le futur, je pense. Ça va pas être votre style en tant que tel, mais plus bah, l'idée de concept que vous avez derrière une illustration. Et c'est en ça que les personnes qui vont créer les prompts, ces personnes-là vont être remplaçables. Parce qu'en fait, elles utilisent le dessin de quelqu'un d'autre. Donc, que ce soit moi qui écrive le prompt ou que ce soit quelqu'un d'autre qui écrive le prompt, bon, bah, c'est juste un skill, c'est juste avoir une compétence où on sait parler à la machine, en fait. Et ça, je pense que plus les avancées vont avancer, plus on aura des moyens de vraiment communiquer correctement avec la machine, avec voilà, des boutons peut-être. Ou... On le voit d'ailleurs maintenant où on a les prompts sont divisés en deux catégories, ce que vous voulez représenter, et la deuxième catégorie, c'est dans quel style en fait. Un autre point que j'ai vu, c'est que ça peut être utilisé, un peu sur le même sujet que les photos bashing, c'est que ça peut être utilisé pour faire des mood boards. Donc les mood boards, pour rappel, c'est tout simplement un panneau, un board, un panneau, qui, où il y a différentes illustrations, différentes photos. Et quand on mixe toutes ces différentes photos et ces différentes illustrations, on va avoir une idée de l'illustration qu'on veut faire ou de la direction artistique qu'on veut faire. Et que du coup, pas mal de personnes utilisent apparemment les IA pour créer ces mood boards. Bon, je comprends l'idée, mais en soi, je comprends pas trop pourquoi est-ce que, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire toute l'illustration en prompt. Parce que j'imagine que si vous nourrissez la machine avec exactement ce que vous voulez l'anatomie d'un tel, les couleurs d'un tel, les compositions d'un tel, vous allez avoir un mix qui est parfait. Et je l'ai vu notamment dans la vidéo, vous avez des mix d'artistes et en effet, ben, vous reconnaissez vraiment le style de ces deux artistes. Donc bon, peut-être que nous, à notre petite échelle, ça peut être intéressant d'avoir ces moodboards-là. Je préfère encore cette idée de pouvoir taper exactement ce qu'on veut et, comme je vous ai dit là, le moteur de recherche, ça va récupérer la bonne image, une image qui existe réellement, plutôt que voilà, de créer une espèce de monstre un peu, ouais, je sais pas. Un autre tweet que j'ai vu passer, c'est le fait que ça ne va pas faire évoluer l'art, mais ça va le banaliser. Et là, je suis complètement d'accord avec ça. La perception qu'on a des belles images, et j'en parle dans ma vidéo justement, va totalement changer en fait. Et on commence déjà à le voir, le nombre d'illustrations où on se dit « Ouh, ça a un peu le style de l'IA en fait, c'est un peu le... » Je sais pas comment expliquer, mais vous le voyez, vous savez, ces espèces d'illustrations très... maintenant, qui sont un peu classiques en fait, avec... on voit vraiment les volumes, on voit vraiment les ombres et lumières, c'est pas vraiment de l'illustration, vous savez, c'est pas des aplats où il n'y a pas d'ancrage, ce genre de choses, c'est plus... Ça ressemble un peu à de la 3D en fait. Ce style-là, le style IA, on le reconnaît de plus en plus, et honnêtement, je commence à vraiment être un peu écœurée par ça, et même quand c'est des vraies illustrations, quand c'est vraiment fait par une personne, bah, je suis vraiment peu sensible en fait, je me dis oui bon bah ça ressemble à exactement tout ce que j'ai déjà vu avant, et du coup j'y vois plus trop déjà la prouesse technique, j'y suis plus trop sensible et ça me plaît plus en fait en termes de style. Maintenant en ce moment je cherche plus le style traditionnel un peu, ou clairement aplat, des aplats, un peu animation par exemple, plus que vraiment le truc qui est un peu semi-réaliste. C'est un peu dommage en fait. Je pense notamment à tous ces artistes qui ont été pompés, j'ai envie de dire. C'est vraiment comme une machine qui récupère les œuvres directement. J'ai mal pour eux en fait, parce que ça veut dire que votre style devient un peu trop vu en fait. Tout simplement parce que vous êtes de base populaire et que peut-être l'IA a eu des facilités à s'inspirer de votre style. Autre chose, c'est que cette technologie, elle est très très compliquée à arrêter en fait. Je pense que c'est trop tard. On y est déjà partout. La différence déjà entre le moment où j'ai fait la vidéo et maintenant est flagrant. Les IA, elles sont partout. Dans n'importe quel métier, vous retrouvez ça. Et c'est pas possible d'arrêter une telle avancée, en fait. Sinon, enfin, juste prenez du recul et juste regardez votre smartphone. Regardez votre téléphone. Maintenant, on a des appareils photos dans nos téléphones. Moi, je veux dire, ma chaîne YouTube, elle tourne pratiquement que avec mon iPhone, en fait. Juste parce que je tourne mes vidéos dessus, j'ai une espèce de faux flou qui se crée, qui reproduit celui de la caméra, enfin bref. C'est fou maintenant ce qu'on fait. On peut pas arrêter ça, c'est pas possible d'arrêter. Du coup, la seule solution, c'est de s'adapter. Le truc, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de s'adapter? Est-ce que les artistes veulent s'adapter? Parce que j'ai vu ça aussi. J'ai vu des personnes qui disaient « Oui, quand Photoshop est arrivé, on l'a critiqué aussi. On disait que c'était de la triche. » Non, c'est pas pareil. J'ai pas envie d'écrire un texte. J'ai pas envie d'écrire un texte pour faire une illustration. Moi, je veux dessiner, en fait. Je veux pas taper sur un putain de clavier. Je suis désolée, mais c'est vrai. Je veux pas taper sur un clavier. Alors, peut-être que des gens veulent faire ça, et c'est très bien. Mais mon métier, s'il change, bah, qu'il change, mais je dessinerai pour moi, et c'est d'ailleurs ce que je fais maintenant pour le moment, c'est que je dessine pour moi parce que j'ai pas envie de faire des illustrations pour un autre studio de jeux vidéo, je veux pas participer à ce truc là en fait. Donc là moi je suis plus partie sur une optique de faire mes propres jeux et vraiment penser au concept à part entière, et je peux me permettre de faire ça parce que j'ai la chance d'avoir le carnet digital, je peux faire ce que j'ai envie de faire, mais il y a des personnes qui vont être forcées en fait à s'adapter, et ça me brise le cœur en fait. Vous avez signé pour un métier, et en fait ce métier est en train d'évoluer, et je comprends qu'il faut s'adapter, mais on est tellement dans un métier passion que ça fait mal en fait. Et j'ai pas de solution à part montrer en fait au monde à quel point ça prend du temps et à quel l'envers du décor en fait. Et c'était la conclusion de ma vidéo, c'était de montrer plus que jamais l'envers du décor. Je sais pas à combien de minutes je suis, mais j'ai encore plein d'autres sujets à traiter. Bon, il y a vraiment les abus aussi de l'IA. Alors ça, c'est pareil. Je passe du temps avec mes parents et ils ont déjà du mal à comprendre ce qui est un hoax, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, quand ça passe à la télé ou pas. Alors là, avec les IA, ça va être n'importe quoi. Mais peut-être que justement, ils vont être tellement... je sais pas. Peut-être qu'à force de voir tellement de choses fausses, ou qu'on va tellement les prévenir que tout peut être faux, que peut-être justement même ce qui est prise de vue réelle sera un peu questionné quand même un minimum. Parce que vous avez aussi tout ce qui est, vous savez, manipulation juste avec un montage en fait. Vous pouvez tout simplement faire dire ce que vous voulez à quiconque juste avec un système de montage. Donc peut-être que ça va aider au final. Une métaphore que j'aimais beaucoup, l'IA et l'ombre de l'artiste. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, cette idée de voilà... L'IA copie en fait à l'identique l'artiste, mais n'est que son ombre en fait. Si l'artiste ne fait rien, l'IA ne peut rien faire. Et elle n'est qu'une pâle copie en noir. Non, pas en noir, parce qu'on ne fait pas les ombres en noir. Hein. Vous vous rappelez? On peint pas les ombres en noir. Mais vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, c'est ça, la conscience, elle n'est pas dans la machine. La machine, elle n'est pas capable de créer des illustrations. Alors, elle est capable de créer des illustrations, mais elle n'est pas capable de créer vraiment du sens. Le sens, il est créé par le prompt. Et c'est ça qui me fait aussi peur, c'est que maintenant, avec ChatGPT, on est capable de créer une forme de sens. La dernière fois, j'ai demandé à ChatGPT, pour mes tests justement, de m'expliquer un sujet très complexe. Alors, je ne sais plus exactement, mais c'était un truc qui est une molécule qu'on avait dans le cerveau. Et je lui ai demandé de m'expliquer comme si j'avais 8 ans, chose qu'il a faite. Puis ensuite, je lui ai demandé de me raconter une histoire qui est une métaphore en fait de cette molécule. Et il l'a fait aussi. Et basé sur ça, je pourrais très bien lui demander de me découper le texte en un livre pour enfants et quelle illustration je représente. Alors ça serait intéressant de voir si les cadrages et les idées qu'il a sont intéressantes ou pas. Mais voilà, on y vient en fait petit à petit. Il y a des personnes qui ont créé des films juste à base d'IA. On le voit aussi de plus en plus, vous prenez une vidéo, vous bougez machin et vous avez une version... Avatar, 3D, voilà. Je suis un peu pessimiste, je suis désolée. J'aimerais vraiment amener plus de positivité à ce podcast. Mais je pensais que c'était aussi intéressant peut-être que vous entendiez un autre point de vue qui est peut-être plus émotionnel, voilà, qui est plus... C'est bien aussi de se lâcher, de... Ça permet un peu de... Enfin, je l'espère, en fait, Non, c'est bien parfois de se plaindre un peu, c'est ça que je veux dire. Et surtout qu'il y a pas mal d'abus. Alors il y a pas longtemps, il y a eu aussi cette histoire avec Photoshop qui, donc apparemment, a changé son contrat en fait quand vous lancez le logiciel. Et donc j'ai copié-collé le texte. Apparemment, ils disent, alors je vous le traduis en live, qu'ils utilisent du machine learning qui est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle pour analyser le contenu afin d'améliorer et développer leurs produits. Et c'est ce qui s'est passé récemment avec la mise à jour de Photoshop, alors je sais plus le nom, Butterfly, quelque chose comme ça, Butterfly peut-être, qui permet justement de faire un peu ce que je montrais dans la vidéo, c'est-à-dire de changer une illustration qui est déjà faite, ou de créer des pixels là où il n'y en a pas, donc de rajouter du décor par exemple là où il n'y en a pas, etc., etc. Le problème c'est que par exemple, alors je sais pas si ça a été changé, mais c'est que c'est inscrit d'office en fait, quand vous lancez Photoshop, ça valide directement ce truc-là, et que vous avez aussi le même problème sur Behance, et Adobe Stock, parce que ça appartient à Photoshop, qui appartient à Photoshop. Et du coup, bah, quand vous postez vos illustrations sur Behance, j'ai peur que ça utilise en fait vos données pour nourrir la machine. À vérifier cependant. J'avoue que sur tous ces sujets-là, j'ai pas suivi assez, parce qu'en fait, ça va dans tous les sens. Il faut vraiment sourcer ou être sûr, et donc j'ai vraiment pas le temps de faire ce travail journalistique, mais je vous invite vraiment à faire ce travail. Et si vous avez des informations, n'hésitez pas à me l'envoyer en DM sur Instagram. Enfin, et pour finir, beaucoup de personnes se posaient la question, est-ce que l'intelligence artificielle crée de l'art? Et donc j'avais cherché à l'époque la définition de l'art et j'étais tombée sur expression d'un idéal esthétique, ensemble des activités humaines créatrices visant à cette expression. ensemble des activités humaines. Donc, par définition, l'IA ne fait pas de l'art. Après, j'imagine que ça dépend des dictionnaires, mais il semblerait que l'art, par définition, est une activité d'homme, pas de robot. Et c'est pareil, en fait, sur la question de l'inspiration, j'ai vu ça dans les commentaires, je crois, de ma vidéo, des personnes qui disaient que l'IA s'était inspirée du travail de notre artiste. Donc l'inspiration, pareil, la définition, ça serait prendre le travail d'un autre et se l'approprier car déformé par le passé de l'artiste, sa personnalité. Sa personnalité. Si c'est une personnalité, ça veut dire que c'est une personne. C'est avoir une vision personnelle. L'IA n'a pas une vision personnelle. L'IA a une conscience collective. On pourrait dire ça. Conscience collective. Je sais pas si on pourrait dire conscience, mais en tout cas, elle s'inspire d'une conscience collective. Et par conséquent, si elle s'inspire d'une conscience collective, elle va créer quelque chose de moyen, en fait. Elle va jamais créer des idées qui sont outside of the box. Je sais pas comment dire en français, mais qui sont des idées novatrices. Voilà, des idées novatrices qui sortent du paradigme, qui sortent de ce qui a déjà été proposé maintes et maintes fois. Et c'est en ça qu'en fait, on n'est pas remplaçable. Si vous êtes un artiste qui propose des idées novatrices, des nouvelles idées, parce que vous vous inspirez d'autres choses que d'autres illustrations d'autres artistes, ou peut-être vous vous inspirez, j'en sais rien, de la danse, peut-être que vous vous inspirez de l'histoire, peut-être que vous vous inspirez de métaphysique, ça, l'IA, elle va avoir du mal à le faire, en fait. Elle va avoir du mal à créer des nouvelles images. Elle va avoir du mal à avoir une nouvelle proposition. La proposition, elle va venir du prompteur, de celui qui écrit le prompt. Ça veut dire qu'il doit avoir l'idée, déjà, de base. Et c'est le seul espoir qu'on a, je pense. Et c'est vers ça que j'ai envie de me tourner. J'ai envie, moi-même, en tant qu'illustratrice, en tant que créatrice, j'ai envie de dire, j'ai envie de travailler sur moi, en fait. Travailler sur moi, savoir exactement qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Pas comment, c'est quoi. Voilà, c'est répondre à la question quoi, plus que comment. Parce que le comment, l'IA, elle est plus forte que moi pour ça. Elle est plus rapide, elle a une meilleure technique. Mais pour le quoi, elle pourra jamais me remplacer. Parce que ma vision que j'ai envie d'apporter dans cette illustration, c'est ma vision. Elle ne peut pas faire ça mieux que moi. Alors peut-être qu'elle peut prédire, mais elle n'est pas encore dans ma tête. Donc ça, c'est cool. Donc ça serait mon conseil. Mon conseil, c'est de retourner en introspection. C'est de se retourner vers nous-mêmes. D'arrêter de chercher vers l'extérieur, mais d'essayer de savoir qu'est-ce que vous avez envie de raconter, qu'est-ce que vous avez envie de représenter, qu'est-ce que vous avez envie de dénoncer et de le montrer dans vos illustrations. Ça, et évidemment de montrer l'envers du décor. Juste pour que le grand public se rende compte à quel point dessiner, l'art en général, prend du temps et est un investissement d'un homme en fait, d'un humain derrière. C'est pas juste faire des jolies images pour faire des jolies images. Parce que ça, en effet, l'IA le fait mieux que nous. J'espère que ce podcast ne vous aura pas trop déprimé. Dans tous les cas, sachez que l'IA ne pourra jamais remplacer votre propre plaisir. Donc si vous prenez du plaisir à dessiner, l'IA ne peut pas vous enlever ça. Elle peut vous enlever peut-être la possibilité d'en vivre. Mais si, je sais pas, j'ai envie d'être un peu positive quand même, j'ai envie de me dire quand même si vous avez vraiment des bonnes idées, l'IA elle peut pas remplacer ça. Le fond et pas la forme quoi. Le pourquoi et pas le comment. Force à vous, force à nous. Je sais pas vraiment comment finir ce podcast. Peut-être écouter un autre podcast, un autre de mes podcasts, qui sera peut-être plus inspirant. Juste histoire de rééquilibrer voilà, cette balance. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Pour rappel, j'aide les artistes et artistes en devenir à reprendre confiance en eux et en leur dessin. Le tout en les libérant de la pression et l'attente et la comparaison avec autrui. Je les aide à révéler leur véritable identité artistique en les gardant inspirés et motivés avec bienveillance. Pour cela, j'utilise une pédagogie claire et concise, accessible à tous et applicable tout de suite afin qu'ils se reconnectent au véritable plaisir de dessiner régulièrement qu'on a souvent tendance à perdre pendant l'enfance. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez travailler avec moi, je vous rappelle que vous avez un lien dans la description.